Avant d'écouter un nouvel épisode de Prolongation, je vous encourage à aller faire un tour sur la boutique en ligne de Calcio EPP. C'est sur www.calcioepp.shop. Et vous trouverez des posters en papier, des affiches murales en aluminium consacrées au football italien et européen. Milan, la Juve, l'Inter, Roma, Napoli, Real, Barça, Bayern, Manchester United, plusieurs clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, des sélections nationales et même beaucoup de vintage. C'est un moyen de soutenir le podcast Prolongation et c'est à retrouver sur calcioepp.shop.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous, je suis Johan Crochet, journaliste et podcasteur, et je vous souhaite la bienvenue pour un nouvel épisode de Prolongation. Prolongation est un podcast d'entretien où je rencontre des acteurs du football pour vous faire découvrir et pour décoder leur métier. L'idée est de donner des clés pour mieux comprendre le football avec ceux qui le font. Vous aurez accès à des entretiens avec des entraîneurs, des joueurs, des préparateurs, des recruteurs, des formateurs et même des spécialistes de la nutrition et du sommeil. Une seule règle, on prend le temps, on écoute les invités et on réfléchit tous ensemble. D'ailleurs, si vous avez apprécié l'épisode à venir ou que vous avez apprécié les précédents, je vous encourage à mettre les 5 étoiles et laisser un commentaire sur Apple Podcasts pour faire découvrir Prolongation au plus grand nombre. Aujourd'hui, je reçois Sébastien Cotta, directeur technique de l'entreprise Sparfel, qui est en charge de la gestion des pelouses de plusieurs clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 à Brest, Caen, Le Havre, Ajaccio et bien d'autres encore. Avec lui, nous avons abordé l'importance d'avoir des pelouses de qualité pour les entraîneurs, les joueurs et les téléspectateurs. Nous avons détaillé les différents processus interférant sur la qualité d'une pelouse, de la semence choisie aux éléments perturbateurs comme la météo, les champignons ou encore l'architecture des stades. Nous avons également évoqué le quotidien d'un référent pelouse dans un club, ainsi que la cohabitation entre la conscience écologique de tout à chacun et l'utilisation de produits chimiques pour l'entretien des pelouses. Voilà pour le résumé, il est temps maintenant de laisser la place à cette conversation avec Sébastien Cotta. Bonjour Sébastien Cotta et bienvenue dans le podcast Prolongation.
Bonjour, merci de nous avoir invité.
Alors, dans ce podcast, on commence toujours par la même question. Est-ce que vous pouvez nous raconter un match qui vous a marqué? Alors, ça peut être par plein de façons. Ça peut être par un résultat, une émotion. Ça peut être un scénario particulier que vous avez pu ressentir. J'aime bien demander ça à mes invités parce que j'aime bien connaître tout de suite leur Madeleine de Proust, leur meilleur souvenir footballistique. Ça peut être d'ailleurs dans un stade, que vous ayez vu de vos propres yeux dans un stade, ou ça peut être simplement devant la télé, ou ça peut même remonter à quand vous étiez enfant, adolescent, adulte, peu importe. C'est très large.
C'est la finale 98, ouais. Au Stade de France, derrière ma télé, mon premier match de foot que j'ai vu en entier. Je pense comme beaucoup de Français à ce moment-là, mais du coup, voilà, pour la petite histoire, on est arrivé en vacances et on est arrivé peu de temps avant le coup d'envoi. Et c'est vraiment le premier souvenir que j'ai avec en plus la victoire. Mon premier match de foot, parce que je ne faisais pas de foot. Mais voilà, c'est, je pense comme beaucoup de Français à ce moment-là, c'est l'événement qui m'a marqué voilà, et je me souviens encore. Aujourd'hui.
Et oui, comme beaucoup, on avait le droit à une mi-temps jusqu'à un certain âge. Pour les grands événements, éventuellement, on avait le droit de regarder le match entier. Mais sinon, c'était généralement la frustration d'aller se coucher à la mi-temps. Je ne sais pas si c'est encore comme ça aujourd'hui, mais...
Je ne sais pas, mais en tout cas, moi, j'ai eu le droit de regarder tout le match. Enfin, c'était pendant les vacances, donc voilà, non, c'était vraiment un bon souvenir.
Alors Sébastien, nous allons parler de nos chères pelouses, cet outil indispensable au bon déroulement d'un match de foot. Avant de rentrer dans de multiples détails pour que les auditeurs et auditrices comprennent aussi la complexité de la gestion de l'aire de jeu d'un terrain de football, on va peut-être commencer par quelque chose de plus général. Généralement, avec mes invités, je leur demande soit quel était leur rapport au football, s'ils l'ont pratiqué, etc. Vous venez juste de répondre à la question. Soit j'aime bien connaître un petit peu leur parcours. Donc généralement, quand on s'occupe d'une pelouse, quand on est détaché par Sparfel dans un club pour s'occuper d'une pelouse, Ces personnes-là, quelles études elles ont fait? Comment on arrive à entrer chez Sparfel pour s'occuper de pelouse de club professionnel où il y a une exigence qui est évidemment très très importante? Et deuxième question un petit peu en rapport avec ça, c'est comme tout métier très spécifique, les choses évoluent. Il y a des nouvelles méthodes, on va parler beaucoup des perturbateurs, etc. Comment vous les encouragez à continuer de se former pour toujours être à la pointe de ce qui se fait aujourd'hui dans ce métier?
C'est la grande question, c'est le recrutement. C'est vrai que c'est compliqué parce qu'il n'y a pas de formation particulière pour les intendants de terrain de foot, puisque c'est le nom qu'on a. Il n'y a pas de formation particulière. Par contre, il y a des formations au golf, sur les golfs, et des formations de jardiniers de terrain de sport, donc qui sont mixées avec les jardiniers de golf. Donc en fait, on recrute beaucoup des anciens greenkeepers. Enfin, on essaye de recruter d'anciens greenkeepers de golf parce qu'on travaille le gazon, même si c'est pas tout à fait le même gazon, mais les techniques sont les mêmes. Et puis la pression d'un match de Champions League ou de Ligue 1 ou de Ligue 2, c'est la même que certains grands événements de golf. Donc voilà, on essaie de recruter vers le golf, mais c'est de plus en plus compliqué parce qu'il y a de plus en plus de demandes, soit dans les golfs ou dans les clubs professionnels. Malheureusement, le même nombre chaque année, c'est environ 10 à 12 personnes qui sortent de l'école. C'est Dunkerque, intendant de terrain de golf. Donc voilà, après, c'est vrai que le foot et le rugby, ça représente beaucoup de Français. Il y a beaucoup de jardiniers de golf ou d'intendants de golf qui adorent le foot. Donc c'est vrai que ça nous permet de recruter un peu plus facilement. C'est pas facile. Et après, pour la formation, du coup, nous, on essaie tous les ans, on réunit nos responsables de pelouse. Ça représente 10 personnes chez Sparfel qu'on réunit une fois par an pour aborder plein de sujets, et notamment, nous, c'est les maladies et les fertilisants, c'est ce qui est un peu, en tout cas chez nous, un petit peu le point noir, entre guillemets, où là, les gars demandent d'être suivis, et puis voilà, après, c'est des formations continues dans le cadre des cursus professionnels, et après aussi, par la direction ou par moi-même, on discute beaucoup avec les gars, donc des fois, ils nous apprennent des choses, et des fois, c'est nous qui les reprenons, enfin voilà, beaucoup dans l'échange. Voilà, il n'y a pas vraiment de formation pour les terrains de foot et de rugby.
Et est-ce qu'il y a une curiosité d'aller voir ce qui se fait dans d'autres pays, à la fois sur d'ailleurs sur le football, mais peut-être sur d'autres sports? On peut penser au football américain, on peut penser à d'autres sports qui sont peut-être plus en vogue dans d'autres pays. Mais est-ce qu'il y a la curiosité? On parle souvent de l'Angleterre comme le pays, notamment pour le football, où il y a une exigence, une minutie vraiment très particulière. Est-ce qu'il y a cette curiosité-là chez vous et des échanges qui sont amorcés entre je sais pas, des grandes semaines de Premier League ou de Championship et vos référents dans les différents clubs de Ligue 1, Ligue 2?
Alors oui, tout à fait. Pour parler de l'Angleterre, clairement, si on en est là aujourd'hui aussi en France, c'est grâce à Jonathan Calderwood, donc un Anglais que tout le monde connaît, c'est le jardinier du Parc des Princes, du Paris Saint-Germain. C'est lui qui a emmené la technicité anglaise en France et on s'y est tous intéressés par ce biais et moi le premier. Voilà, après il y a eu Tony Stone au Stade de France avec lequel j'ai eu la chance de travailler et du coup d'apprendre d'autres méthodes au jour le jour anglaises. Donc voilà, après il faut savoir, et vous parliez des États-Unis, c'est pareil, les États-Unis ont vraiment une grosse culture gazon, alors pas sur les terrains de foot mais sur les terrains, il y a hockey sur gazon aussi en Angleterre et puis le baseball, tout ce qui est autour du terrain, parce qu'il faut que ce soit juste magnifique pour la caméra. Mais on ne travaille pas avec les mêmes exigences en termes de produits et de réglementation surtout. Donc la réglementation française, notamment sur les produits, ce qu'on dit phytosanitaire, sur les maladies, on n'a pas la même. Les engrais, c'est pareil. On n'a pas les mêmes réglementations, donc on ne peut pas tout à fait copier le modèle anglais ou le modèle américain ou le modèle d'autres pays. C'est vraiment... On peut prendre le gros, mais après, il faut chaque pays, et d'ailleurs, c'est valable aussi pour eux, hein, chaque pays adapte avec sa loi, quoi.
D'accord. C'est plus restrictif en France qu'aux États-Unis, par exemple ?
Oui, pour ce que je connais. Après, je connais pas la loi américaine par cœur, parfaitement, mais voilà, je sais que notamment par rapport aux Anglais, on n'utilise pas les mêmes produits. Ils ont une autre réglementation. Ils ont d'autres. Il y a des avantages et des inconvénients entre guillemets dans chaque pays. Mais voilà, par exemple, en Belgique, il n'y a plus de produits phytosanitaires pour traiter les pelouses. Nous, on a encore le droit aujourd'hui. Donc voilà, chaque pays travaille différemment.
Alors la pelouse, c'est l'outil principal des footballeurs. Elle a une incidence directe sur plein de choses, en fait, sur la qualité de jeu déjà, et ça c'est très important, sur le risque de blessure des joueurs, et ça c'est aussi très important, sur la qualité télévisuelle, vous venez de l'évoquer aussi pour les États-Unis, il faut que l'air de jeu soit magnifique aussi pour les nombreux téléspectateurs. Avec un peu de recul, quand des clubs font appel à vos services, qu'est-ce qu'ils mettent en avant? Quelles sont les raisons principales de cette volonté d'améliorer leur... leur pelouse, la qualité des pelouses, alors dans les stades ou même dans les stades, c'est vraiment particulier parce que les au centre d'entraînement, on sera plus, j'imagine, sur de la blessure ou sur la qualité du jeu. On sera pas trop sur télévisuel parce qu'on filme pas les centres d'entraînement. Où est la sensibilité des personnes qui vous démarchent pour justifier le fait de vous faire intervenir sur leurs infrastructures?
Sur les terrains d'honneur, c'est, comme vous l'avez dit, c'est télévisuel. Alors, en premier, pour le président, entre guillemets, et en second, pour le coach. Mais c'est, ouais, l'aspect visuel, c'est vraiment important. Et puis, l'aspect technique, les appuis, les blessures, comme vous l'avez dit, tout ce qui est rapidité, qualité de rôle de la balle. Donc, rapidité, plus ou moins, hauteur détente. On a des coachs qui commencent vraiment à être très, très professionnels là-dessus. Voilà, le terrain d'honneur, c'est l'ensemble du tapis et forcément tout ce qui est télé, parce qu'on parle de droit télé, donc on parle aussi d'argent, forcément. Et pour les temps d'entraînement, le but, c'est d'avoir des terrains qui se rapprochent le plus possible de la qualité de jeu du week-end, enfin du match, voilà, clairement. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a les terrains renforcés qui font leur apparition sur les terrains d'entraînement. Et voilà, ce qu'on veut, c'est ce qu'ils veulent, c'est des terrains denses, propres, enfin les mêmes choses, en fait, les mêmes terrains que vous voyez le week-end ou à la télé, il faut les mêmes la semaine, sauf bon, la couleur au moins, c'est vrai qu'on met du fer un petit peu pour que les terrains ressortent un petit peu plus le week-end, qu'on ne met pas forcément sur les terrains d'entraînement. Mais voilà, ce qu'on cherche un petit peu sur nos terrains.
Ce qui fait sens d'ailleurs d'avoir la même qualité à l'entraînement qu'en match, parce que déjà si on veut mettre en place des principes de jeu, entre guillemets, un jeu élaboré, bah, si on veut le travailler à l'entraînement, il faut aussi qu'on soit dans les meilleures conditions pour le faire. Et puis, mine de rien, les joueurs utilisent beaucoup plus les terrains d'entraînement que le terrain d'honneur dans une semaine de travail. Donc pour tout ce qui est blessure, il faut absolument que là où ils passent le plus de temps, eh bien, il y ait les mêmes exigences. Et finalement, c'est pour en avoir parlé avec quelques personnes dans des clubs professionnels, et là je parle qu'en Ligue 1, Ligue 2, la vraie difficulté, c'est de réussir à reproduire la qualité, parce que maintenant c'est dans la charte de la Ligue, il y a vraiment des choses très importantes qui sont mises aussi pour que ces pelouses soient améliorées, et ça va sans doute être de plus en plus important, notamment sur ces histoires de droits télé, où je pense que les diffuseurs vont aussi peut-être mettre des clauses ou quelque chose pour que eux aussi, ils réclament finalement cette qualité-là parce que eux, ça leur sert pour le confort télévisuel, ça va leur servir pour la qualité du jeu, donc à mieux exposer aussi les droits qu'ils achètent. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de centres d'entraînement où il n'y a pas la même qualité que les pelouses d'honneur, et c'est un vrai souci parce que quand on a l'habitude de travailler 6 jours sur 7 sur des pelouses de moins bonne qualité, il y a plein de conséquences désagréables qui peuvent intervenir.
Oui, c'est clair. Mais il y a de plus en plus de clubs quand même qui sont équipés en pelouse, entre guillemets, hybride, parce que c'est ce qu'il y a de plus en plus le week-end. Après, ouais, c'est surtout sur les appuis, en fait. Nous, c'est le retour qu'on a, c'est surtout les appuis des joueurs, ou vraiment entre les terrains hybrides et d'autres terrains où il y a un changement. Donc c'est pour ça qu'ils aiment bien avoir le même, pour avoir la même chose. Enfin voilà, tout ce qui est muscle. Enfin, je suis pas médecin, mais je sais que les médecins, voilà, ils suivent de plus en plus aussi les terrains, alors par l'intermédiaire du staff technique, évidemment, mais voilà, on a un vrai retour de nos qualités de pelouse d'entraînement. Et voilà, on parlait de qualité, on arrose avant les entraînements, on arrose pour avoir la même roule que le week-end, parce qu'on arrose avant les matchs. Donc voilà, il y a vraiment une similitude de plus en plus, c'est vraiment une demande des staffs.
Alors on peut peut-être faire une simulation de votre travail pour bien comprendre les différentes étapes, parce qu'avant de dire qu'on a une belle pelouse, il y a évidemment plein d'étapes pour arriver à ce résultat final. On part de la base. Alors, je me suis un peu documenté, évidemment, comme à chaque podcast. Si je dis des termes techniques qui sont pas les bons, faut surtout me le dire, que je reste pas dans l'ignorance. Si on part de la base, comment on enrichit le sol avant la pose de la pelouse? Parce que c'est ça aussi qui va déterminer comment la pelouse va croître, quelle qualité elle aura finalement. Nous, ce qu'on voit, c'est la couche de la pelouse. Mais il faut s'imaginer qu'en dessous, il y a d'autres couches qui sont tout aussi importantes. Alors, est-ce que la qualité, je crois que le terme, c'est le substrat. J'espère que je ne vais pas trop me tromper. Voilà. Comment on détermine? Parce qu'il y a plusieurs manières aussi. Peut-être commencer d'ailleurs par ça avant toute chose, parce qu'on parle souvent de pelouse 100% naturelle, pelouse hybride, pelouse synthétique. Oui. Donc, il y a vraiment différents styles, ou je ne sais pas comment le définir.
Des types de pelouse.
Voilà, de types de pelouse.
Des types de pelouse,
oui. Est-ce qu'on peut faire un point déjà rapide sur ces trois types de pelouse qu'on retrouve Alors, pas dans tous les pays, puisque en France, par exemple, dans les clubs professionnels, le synthétique est interdit sur les terrains d'honneur. C'est une charte de la Ligue. Mais par exemple, on en a beaucoup aux Pays-Bas, on en a en Belgique, etc. etc. Mais est-ce qu'on peut faire déjà un point sur ces trois types de pelouse, ce que ça signifie, et puis peut-être des avantages et des défauts de ces types de pelouses.
Alors, on a la pelouse synthétique que tout le monde connaît, qu'on a tous dans nos différentes communes ou dans nos différents clubs d'ailleurs. Donc, remplie en matériaux naturels ou en matériaux recyclés, style caoutchouc, vulgairement ce qu'on appelle le pneu. Voilà, maintenant, il y a des pneus, enfin des caoutchoucs pas naturels, mais en tout cas qui ne sont pas issus d'hydrocarbures. Après, on a les terrains, ce qu'on appelle communément, nous, les terres sables. En fait, c'est les terrains que vous avez aussi dans différentes communes, dans les stades dans toutes les villes. C'est des terrains en terre mélangés avec un petit peu de sable et qu'on avait il y a 10-12 ans sur nos terrains d'honneur. Hein. Voilà, exactement ces terrains-là.
C'est ça qu'on appelle des pelouses naturelles, du coup ou...
Oui, après, nous, quand on parle de pelouses naturelles, c'est quand on a du gazon.
D'accord.
Voilà. Mais nous, les hybrides, vulgairement, on les appelle pelouses naturelles, mais c'est vrai qu'on devrait les appeler terrains hybrides. Mais voilà, là, c'est vraiment pelouse 100% naturelle, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'incorporation de fibres synthétiques ou de matières synthétiques. Voilà, c'est de la terre, comme on connaît tous, qu'on a tous dans nos jardins, avec du sable, voilà, mélangé sur 20 cm.
Ok, d'accord. Et le dernier type, du coup, c'est...
Les pelouses hybrides. Donc il y a plusieurs types de pelouses hybrides. Il y a la pelouse hybride qu'on a sur tous les terrains, Paris Saint-Germain, Stade de France, puis plein d'autres. C'est des pelouses qu'on appelle nous stitchées. En fait, on vient incorporer sur 20 cm de haut des fibres synthétiques. Il faut imaginer qu'on vient coudre à la machine à coudre. Bon, c'est des machines beaucoup plus grosses, mais on vient incorporer des fibres synthétiques sur 20 cm de haut et tous les 2 cm. Donc voilà, ça représente plusieurs kilomètres de fibres synthétiques incorporées sur tout le terrain. Donc ça, c'est ce qu'on a sur la plupart de nos terrains d'honneur. Après, on a un deuxième substrat, on appelle ça sablé fibré. En fait, c'est du sable qui est mélangé avec de la fibre, mais sur la hauteur de 20 cm. Il n'y a pas d'incorporation là, c'est des fibres synthétiques ou naturelles, l'un ou l'autre. Qui sont mélangés au sable sur entre 12 et 20 cm. En général, on travaille sur 20 cm. Et le troisième type, c'est des tapis, un petit peu comme les tapis synthétiques, mais qui sont ce qu'on appelle, nous, beaucoup plus ajourés. C'est-à-dire que si un tapis synthétique, on va dire qu'il y a 100% de fibres sur un tapis, ce que nous, on appelle rempli, il y a entre 40 et 50% de fibres synthétiques. Et on vient remplir, on déroule ce tapis sur la totalité de la pelouse, et après, on vient le remplir en matière.
D'accord. Voilà. Et en quel type de matière ?
Ben en sable, en fait. La même chose que les autres. En sable pur, pour le coup, ou amendé, donc c'est-à-dire avec un petit peu de matière organique. Et voilà, après, on vient semer. Tous ces substrats sont généralement semés et non plaqués pour des problèmes de résistance. Un gazon semé est beaucoup plus résistant qu'un gazon plaqué. Donc voilà, c'est pour ça que... Voilà, c'est à peu près les trois, à peu près tout ce qu'on peut retrouver.
Pourquoi aujourd'hui on utilise beaucoup la technique hybride ? Finalement, quel est l'apport de ces incorporations de fibres dans la pelouse naturelle ? Qu'est-ce que ça apporte ? C'est quoi ? C'est de l'entretien, de la durabilité ? C'est de la densité ?
Alors, la première chose qu'on cherche en mettant un hybride, enfin un substrat dit hybride, c'est l'arrachement. En fait, on résiste beaucoup plus à l'arrachement du gazon, j'entends, et à la déformation, du coup. Donc, les joueurs ont vraiment des appuis stables, propre. Et voilà, c'est pour ça qu'on met, parce qu'en fait, les racines, elles viennent s'entourer autour de ces fibres. Et en fin de compte, c'est comme ça qu'on arrive à avoir une pelouse qui se déforme quasi pas. Voilà, il y a toujours un peu de pelouse qui vole à l'écran, hein, ça, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, il n'y a pas de déformation de surface. C'est pour ça qu'il y a aussi certainement beaucoup moins de blessures qu'il y a quelques années.
Et avec ça, est-ce qu'on a le risque d'avoir des grosses mottes de terre comme on pouvait le voir avant? Non, c'est pas possible.
Non, 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 c'est pas possible du tout. C'est fait, en fait, c'est tout ce qu'on veut pas. Parce qu'avant, il y avait des vrais arrachements. Maintenant, il y en a plus. C'est pour ça que ces substrats ont évolué. Et voilà, maintenant, il y a vraiment une tenue. Et voilà, en fait, on pourrait jouer sur les substrats stitchés. Donc, on disait tout à l'heure qu'il y avait 2 centimes sur 20 cm et tous les 2 cm, on pourrait quasi jouer sans gazon si on voulait.
Voilà. D'accord.
C'est pour ça que des fois, vous voyez les zones de but qui sont un petit peu dégarnies. Mais ça joue et le gardien n'est pas gêné parce qu'en fait, on peut. Voilà, le gazon est là pour faire les bandes claires et les bandes foncées, comme on voit, avoir un quadrillage magnifique. Mais techniquement, en tout cas, on pourrait jouer sans gazon. Les terrains sont un peu plus durs, forcément, parce qu'on est sur le sable et on n'a pas la couche d'amortissement de la feuille de gazon. Mais voilà, ça ne pose pas de problème ni au jeu, ni en termes de dangerosité pour les joueurs.
Alors, je vous ai coupé, du coup, ça c'était le premier avantage de la pelouse hybride. Est-ce qu'il y en a d'autres, du coup ? Autre que la tenue ?
Non, c'est le premier. Après, on peut jouer toute l'année parce que forcément, on a beaucoup moins d'arrachement. Donc, c'est des terrains qui vieillissent bien, notamment en hiver, parce qu'on n'a pas le gazon se développe beaucoup moins en hiver qu'en été. Voilà, c'est vraiment l'aspect principal. En fait, d'avoir moins d'arrachement, ça nous facilite tout. Ça nous facilite, nous, nos opérations d'entretien. On y passe beaucoup moins de temps qu'il y a quelques années sur les terres sables. On était obligé de déplaquer, replaquer. Voilà, là, on ramène un petit peu de semences, un petit peu de gazon. Il faut être beaucoup plus sur notre terrain. En fait, on y passe le même nombre d'heures à la fin de la semaine, mais on travaille différemment.
Petite question comme ça. Quand on a souvent des opérations où on change la pelouse l'été avant le début d'une nouvelle saison, combien de temps il faut la laisser au repos avant de pouvoir l'utiliser en match ou en entraînement d'ailleurs? Parce que alors c'est pareil pour quand on dit on change la pelouse, il y a plusieurs manières aussi de mettre une pelouse. C'est soit on plaque ce que vous appelez le plaquage, c'est ça?
Le plaquage, oui.
Voilà, des rouleaux de pelouse. Soit on peut en semer, carrément semer de la pelouse et attendre qu'elle pousse, etc. Donc, j'imagine que le temps n'est pas le même selon les deux méthodes.
Oui, après, sur les méthodes stitchées, par exemple, une fois que le terrain est stitché, on a la corporation de fibres sur 20 cm de haut. On peut pas plaquer dessus, parce qu'en fait, on a les fibres synthétiques qui sont dessous, donc on perd
la... Ça va avec le fait de semer, du coup, cette technologie-là.
Oui, voilà, tout à fait, on sème. Donc, et après, les autres, le tapis... peut être fait en gazonnière, ce qu'on appelle la gazonnière, en fait, c'est une entreprise qui pré-cultive, et après on vient retirer et on le met en forme de plaquage de rouleau. Après, c'est 6 à 8 semaines entre le moment où on sème et le moment où on va jouer. 6 semaines, c'est ce que nous on recommande au minimum. Après, on a déjà fait 4, 4 et demi, 5, voilà, mais 6, c'est ça dépend, pareil, hein. Ça dépend du moment de l'année, ça dépend où on est géographiquement, parce qu'on a quand même des maladies, on a d'autres choses, hein, entre Lille, par exemple, et Marseille, enfin, pour citer les points cardinaux, hein, pas par rapport aux pelouses. Mais voilà, on travaille différemment. Pour nous, à Brest ou à Strasbourg, voilà, on travaille un petit peu différemment. Les produits, c'est pareil. Donc, c'est entre 6 et 8 semaines, entre le moment où on sème et le moment où on peut jouer.
Et quand on plaque, du coup, quand on fait l'autre technique?
Le plaquage, c'est quasi instantané, ça dépend de l'épaisseur du rouleau, mais si on est sur des rouleaux généralement de 35 mm, entre 25 et 35 mm, du foot, on peut jouer entre 24 et ouais, après 24 heures.
C'est intéressant parce que je ne sais pas si vous avez vu, le Real Madrid a dévoilé une vidéo de son futur du stade une fois qu'il sera complètement refait, etc. etc. Et il y avait une vidéo qui montrait comment, pour des événements, parce que ça, on y reviendra après, mais maintenant, les nouveaux stades qui sont construits ne sont plus simplement dédiés au football, et même pas qu'au sport d'ailleurs, dédiés à des concerts, à tout type d'événements qui peuvent être organisés. Et en fait, dans le futur Bernabéu, une fois qu'il sera complètement réalisé, il y a une vidéo qui montre un peu comment ça va se passer pour retirer la pelouse et ensuite la remettre. Et en fait, c'est des espèces de bandes de pelouse. Imaginons sur la longueur, la pelouse est divisée, je ne sais plus, en 8 ou 9 morceaux. Et en fait, c'est des immenses plaques qui vont être mises sur des ascenseurs intégrés, baissés complètement dans le sol. Et en fait, à chaque étage de pelouse qui va correspondre à une bande de la pelouse finale, il va y avoir la possibilité de faire de la luminothérapie, de l'arroser, etc. sur chaque étage de pelouse. Et en fait, je me disais, c'est de là qu'est venue ma question, parce que quand on va la détacher comme ça, entre guillemets, alors on la détache pas complètement de son habitat, parce qu'on n'arrache pas juste la pelouse et on prend aussi tout ce qu'il y a dessous, etc. Mais quand on la met à l'abri de la lumière, c'est quand on la descend en terre, entre guillemets, puisque c'est sous la surface normale, comment se passe la photosynthèse? Il n'y a plus de lumière. Comment on va stimuler toujours cette pelouse pour pas qu'elle meure tout simplement dans le noir sans aucune luminosité? Et c'est hallucinant de voir ce qu'ils ont prévu pour que l'entretien puisse continuer même pendant 3 jours de concert. Et ça, je trouve assez remarquable. J'invite toutes les personnes qui s'intéressent un peu à cette thématique-là d'essayer de retrouver, je ne sais plus où j'ai vu ça, sans doute sur YouTube, peut-être la chaîne du Real, je ne me rappelle plus exactement, mais de regarder cette technologie-là, parce que c'est hyper intéressant, et de se dire que le mardi, il peut y avoir un concert, et le samedi, on peut jouer un match de foot sans problème là-dessus, quoi.
Alors, je connais pas la technique du Real pour le coup, mais c'est un peu ce qu'il y a à Lille au LOSC sur le terrain Pierre Mauroy, si je me trompe pas, non, où pour le coup c'est en deux plateaux et il y a un plateau qui pareil passe sous l'autre, et donc ça permet d'avoir du tennis ou d'autres choses. Et du coup, c'est pareil, ils ont un système d'irrigation par plateau et un système de luminothérapie par plateau, pareil, pour pouvoir entretenir le gazon. Après, c'est un système qui a quelques années maintenant. Là, le Real, ils sont à la pointe, donc je pense que c'est un système qui est tout neuf. Pour le coup, je suis pas au courant, j'ai pas vu, j'en ai pas entendu parler, Mais voilà, c'est des choses qui existaient déjà, qui ont dû se perfectionner, je pense. Enfin, je suis sûr. Et puis, voilà, après, je pense que le Real a aussi beaucoup d'argent pour développer ces choses-là. Donc, et ils avaient un jardinier qui était très, très bon, un Anglais. Donc, voilà, je pense qu'ils sont vraiment à la pointe.
Une fois que la pelouse est posée, qu'on l'utilise au quotidien ou de manière hebdomadaire, quelles sont les tâches de l'entretien de la pelouse? En gros, il y a beaucoup de choses. Alors, les personnes qui nous écoutent, qui ont un jardin et qui aiment bien avoir de la pelouse dans leur jardin, il y a des choses qui vont leur parler, notamment de tonte, évidemment, mais aussi de scarification. Ça, j'ai découvert ça il y a quelques mois chez un particulier. C'était pas dans un terrain de foot, mais c'était une technique que je ne connaissais pas. On va aussi parler d'aération, d'arrosage, etc. Quelles sont un peu les tâches d'entretien au quotidien des pelouses, alors des terrains d'honneur, mais aussi des terrains d'entraînement?
Bah, la tonte, forcément, c'est là où on passe le plus de temps. Alors, en saison, entre guillemets, entre le 15 mars et le 15 octobre, c'est là où on passe le plus de temps. On tond, on met de l'engrais, voilà, on scarifie. Donc, scarifier, c'est en fait, on enlève la matière morte qui est au niveau des collets des plantes. Le collet, en fait, c'est la partie du gazon entre la partie inférieure, donc les racines, et la partie supérieure, donc les feuilles. Voilà, donc nous, c'est des choses vastement importantes parce que ça occasionne des zones, entre guillemets, de glissantes pour les sportifs. Donc voilà, nous, on doit retirer ce feutre pour... Enfin, ce feutre, c'est vraiment la décomposition, ça se fait pas... La non-décomposition, en fait, des matières mortes. Donc on les enlève à partir de moyens mécaniques. Et voilà, après, il y a l'arrosage, forcément. Nous, ce qu'on appelle la remise en état, en fait, il y a forcément des petites incisions sur le terrain. Et suite aux entraînements, c'est plus ou moins intensif, mais ça, c'est normal. Et donc, bah, les jardiniers, avec des espèces de fourchettes, mais que vous trouvez dans n'importe quel magasin de jardinerie, viennent refermer pour vraiment avoir un tapis propre et qu'en fait, après l'entraînement, enfin après la réparation, on n'ait pas l'impression qu'il y ait un entraînement. Voilà. Et après, il y a aussi tout ce qu'on ne voit pas, c'est la veille des maladies. C'est vachement important, les gars, quand ils tombent, dès qu'ils passent sur le terrain, ils regardent plus le gazon qu'en l'air, parce que voilà, ils veillent vraiment à ce qu'il n'y ait pas de maladie. Ça permet aussi d'avoir une vision sur l'arrosage. Ils voient avec leur gazon, parce qu'ils ont tous des années d'expérience, ils savent comment réagissent leur terrain. Donc ils voient s'il faut arroser, s'il ne faut pas arroser. L'engrais, c'est pareil, il y a des moyens de voir maintenant à l'œil. On voit les terrains jaunissent un petit peu, on sait qu'ils sont un petit peu en manque d'engrais. Voilà, après, qu'est-ce que j'ai oublié? Le traçage aussi, qui est important. Pour les terrains d'entraînement et terrains d'honneur. Donc, terrain d'entraînement, c'est une fois par semaine. Terrain d'honneur, c'est juste avant le match. Et puis, entretien de toutes les parties périphériques aussi des terrains, que ce soit les synthétiques ou les espaces verts, quand c'est à la charge des clubs ou des entreprises comme nous, parce que ben, c'est ce qui vient polluer, entre guillemets, nos terrains avec les mauvaises, ce qu'on appelle, nous, les mauvaises herbes. En fait, c'est des herbes que nous, on ne désire pas. C'est pour ça qu'elles sont appelées comme ça. Mais voilà un peu comment se déroule la semaine sur un terrain.
Alors, la société Sparfait, là, en charge la gestion de nombreuses pelouses de stades de Ligue 1 et Ligue 2. Alors, j'en citer quelques-unes. Les pelouses d'entraînement et terrain d'honneur du stade Brestois. Il y a aussi, vous intervenez à Caen, à Ajaccio, à Guingamp, au Havre, au Paris FC aussi, sur les terrains d'entraînement, là, pour le coup. Oui. Et justement, tout à l'heure, vous preniez Lille et Marseille en comparaison. Et c'est intéressant parce que vous avez Brest et Ajaccio. Et en l'occurrence, oui, c'est deux réalités très différentes. Je pense évidemment à l'influence de la météo. Alors la météo, c'est quoi? C'est l'ensoleillement, c'est la pluviométrie. Et là, pour le coup, entre Brest et Ajaccio, il y a une vraie différence. Et il y a des périodes de sécheresse qu'on a très rarement quand même à Brest et qu'on a régulièrement à Ajaccio. La chaleur aussi, qui peut être très problématique pour la tenue et pour la croissance, la bonne tenue d'une pelouse. Comment on gère du coup ces écarts-là? Entre déjà, comment on gère, en fait, la question, elle est encore plus simple que ça, c'est comment on gère la météo, tout simplement, et les aléas de la météo.
Ouais, la météo, on la gère pas, parce que moi, je suis comme vous, hein, donc voilà, on la gère pas, clairement. Après, on a quand même maintenant des bons sites météo, fournis par la Ligue, enfin, par les clubs et par les ligues, donc qui nous permettent d'avoir quand même des bonnes prévisions très, très fiables. Voilà, après, comme on travaille entre Brest et Ajaccio, on travaille déjà pas avec les mêmes plantes, le même gazon. Voilà, on travaille avec un régras anglais, c'est le nom, sur Brest, donc plutôt sur la moitié nord de la France, et sur la moitié sud, on travaille soit avec du paturin, soit avec du cynodon. Voilà, c'est des plantes, ce qu'on appelle vulgairement le chien dent. Après, c'était développé, hein, voilà, c'est pareil. Ça a été génétiquement modifié pour avoir une finesse de feuillage, voilà, des choses quand même, mais... Donc voilà, en tout cas, le cynodonte sur les terrains d'entraînement, le paturin plus sur les terrains d'honneur. En tout cas, c'est ce que nous, on fait à Ajaccio. parce que c'est moins gourmand en eau, plus résistant aux maladies, parce que dans la moitié sud, on a, comme vous l'avez dit, bah, plus de chaleur, moins d'eau, donc on arrose plus, mais on fait beaucoup d'humidité, beaucoup de chaleur, donc c'est les maladies de gazon se régalent. Donc voilà, c'est pour ça qu'on travaille différemment, et on travaille aussi en engrais, on travaille de manière différente. On travaille sur des micro-apports, enfin des petits apports sur Ajaccio par rapport à Brest. C'est vraiment voilà, une autre manière de travailler. Et nous, les deux jardiniers qui sont à Ajaccio étaient à Caen avant. Donc voilà, c'était une autre matière pour eux, un autre travail, mais ils ont plutôt bien fait. Et après, les bases restent les mêmes, hein, forcément.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Vu qu'on est parti sur les facteurs qui peuvent perturber, entre guillemets, la qualité des pelouses, je réfléchissais à quelque chose, et ça se trouve, il n'y a aucun rapport, et vous allez me le dire, mais tout à l'heure, je parlais des nouveaux stades qui sont construits pour plus seulement le football ou le sport. Ces nouveaux stades, ils se ressemblent tous. Alors, de manière générale, on ne va pas parler architecture, mais en fait, ils sont souvent, enfin quasiment tout le temps, maintenant fermés, entièrement fermés. Et moi, qui suis né à la moitié des années 80, tous les stades que j'ai fréquentés petits, c'était des stades ouverts, des fameux stades à l'anglaise, où en gros, bah, au quart de tribune, il y avait de l'espace et l'air pouvait circuler, etc. Et comme j'ai lu que l'aération des pelouses était une composante très importante pour que la pelouse se porte bien, est-ce que ces stades fermés, parce qu'en plus, il y a à la fois le côté fermé sur le côté, mais il y a aussi maintenant des toits qui recouvrent tout ou partie des tribunes. Au Pierre-Mauroy, par exemple, bah, c'est carrément, on peut le fermer complètement, le stade. Alors, évidemment, on ne va pas le laisser fermer pendant 15 jours, mais est-ce que ces stades-là, entièrement fermés et entièrement ou tout ou partie couverts, génèrent de nouvelles difficultés dans la gestion des pelouses?
Complètement. C'est vrai qu'entre les nouveaux stades et les vieux stades, c'est différent. Et c'est pour ça que maintenant, on travaille avec des ventilateurs pour ventiler l'air, amener un renouvellement d'air en partie basse, donc voilà, sur le premier 1,50 m de gazon, à partir du gazon. On travaille avec des rampes de luminothérapie pour tout ce qui est ombre portée, parce que qui dit ombre dit forcément température un peu plus basse, et puis surtout moins de développement de gazon. Et puis sur certains stades, donc ça c'est pas surtout les stades, hein, forcément, parce que ça entraîne des moyens financiers, et on a aussi le chauffage au sol, pour avoir, donc il y a le double chose, c'est pour avoir un gazon qui pousse, et aussi avoir un gazon qui gèle pas, donc qui est jouable tout le temps. C'est vraiment, et nous, entre Brest et Caen, par exemple, qui sont deux stades, pour ceux qui connaissent, complètement différents, on a une vraie différence. Et voilà, notamment en termes de maladies, on a beaucoup plus de maladies sur Caen, par exemple, que sur Brest. Et on a Guingamp qui se situe en milieu, avec ses deux tribunes latérales un peu plus hautes que les deux tribunes en large. Voilà, c'est totalement différent. Pour nous, c'est vraiment des facteurs un peu plus compliqués, notamment en hiver. Quand le gazon pousse en été, on n'a pas trop de soucis. Mais c'est surtout en hiver où ça nous pose des vrais problèmes. En fait, on est obligé de s'adapter en permanence.
Vous parliez des champignons. Quand on s'était appelé la première fois pour cet entretien, je vous avais dit qu'on pourrait évoquer ce qui s'est passé à l'été 2016 sur nos chères pelouses françaises, mais pas qu'en France d'ailleurs, ça avait touché de nombreux pays, puisqu'il y avait un champignon qui avait ravagé pas mal de pelouses, alors essentiellement dans le sud de la France, mais pas que. Il y avait eu des problèmes aussi en Italie, en Espagne, etc. Même en Angleterre, je crois qu'il y avait eu aussi des problèmes, alors que bon, on peut pas dire que les Anglais ne prennent pas soin de leurs pelouses. Quel processus, on a déjà un petit peu répondu à ça, est-ce qu'il y a vraiment que la météo dans les processus qui amène la prolifération de ces champignons, ou est-ce qu'il y a d'autres phénomènes qui peuvent pousser ces champignons à s'installer sur les pelouses? Et surtout, la question peut-être encore la plus importante, c'est comment les combattre?
Alors, les maladies, c'est vraiment notre hantise numéro un. Donc, on va commencer, c'est les champignons, ils viennent de l'extérieur. Donc, ils sont amenés par les oiseaux, par plein de facteurs. Et en fait, une fois qu'ils sont dans le terrain, on ne peut plus s'en séparer. C'est-à-dire que la souche est là, et voilà, et on peut pas s'en séparer. Après, le champignon, il se développe ou pas, mais en tout cas, il est présent dans le substrat, comme vous disiez tout à l'heure. Et voilà. Après, ils se développent ou pas en fonction des facteurs météo, de la chaleur ou du froid. Ça dépend. Il y a différents champignons, champignons d'été, champignons d'hiver. Après, comment les combattre? C'est compliqué. Notamment, on parlait du periculin. Il y a la fameuse maladie qui a sévi en 2016 et qui, malheureusement, continue de sévir. On n'a pas de produit homologué sur cette maladie-là. Donc, on est obligé de travailler avec des produits qu'on connaît, qu'on utilise pour d'autres maladies, de faire des cocktails. Alors, tout à fait homologués, hein. Je tiens à le dire. On travaille qu'avec des produits homologués et que ce soit nous ou nos collègues en France, c'est vraiment, ou européens d'ailleurs. Hein. Chaque pays a ses produits homologués, mais chacun travaille avec les produits homologués. Voilà, on essaye de faire. Après, ce qui est surtout, on essaie de travailler en amont, donc de manière préventive. On change nos modes de culture, on travaille différents engrais. Maintenant, on essaie de remplir, entre guillemets, de remplir le substrat avec d'autres champignons sains, pour le coup, avant, pour que la place soit prise. En fait, c'est comme si vous aviez, vous mettez du sable dans un vase, entre guillemets, vous remplissez, vous mettez un petit peu d'eau, et en fait, tout le reste, c'est vide. Donc, si vous remplissez à 100% d'eau, si on met 100% de champignons, admettons, et ben forcément, il n'y a plus de place. Donc, on a beaucoup moins de développement de ce qu'on appelle, nous, les pathogènes, des champignons non souhaités. Donc, voilà, on essaye de travailler différemment. Et en plus, le nombre de produits phytosanitaires, donc pour lutter contre ces champignons, est en train de décroître. Voilà, et en 2024, on devrait plus avoir de produits. En tout cas, sur les terrains d'entraînement, les terrains d'honneur, on ne sait pas encore comment ça va se passer.
Alors justement, question importante, pour combattre ces champignons, vous parliez de produits phytosanitaires. Donc il y a des produits, on peut dire des produits naturels ou des techniques naturelles et des techniques chimiques, je ne sais pas si c'est le bon terme. Aujourd'hui, comment on arrive à concilier à la fois la sensibilisation à ce qui se passe au niveau de l'environnement, l'écologie, tout ce qui se passe au naturel, qui sont des vraies tendances, et c'est pas juste une tendance pour faire plaisir, c'est une tendance parce que c'est compliqué, on va dans le mur et il faut trouver un moyen de réduire notre impact sur l'environnement, avec l'efficacité des produits, parce que vous avez aussi besoin d'avoir des résultats sur les pelouses. Et malgré tout, en tant que spécialiste, mais aussi en tant qu'être humain tout à fait normal et classique, on a cette conscience écologique qui tout de suite nous rappelle à l'ordre aussi. Donc comment on réussit à concilier un petit peu tout ça pour notamment lutter je ne parle pas de l'entretien au quotidien, où j'imagine que ça va être un peu plus facile, ou peut-être pas d'ailleurs, mais en tout cas pour lutter contre les champignons.
Alors c'est vrai qu'on est nous un petit peu sur les terrains de sport visés par les critiques, parce qu'on utilise de l'eau, on utilise des produits phytosanitaires, donc des produits chimiques, donc forcément on pollue, ou en tout cas on utilise les réserves naturelles. Nous, notre but, c'est pas de polluer. Clairement, on a des démarches de plus en plus naturelles. Je dis pas qu'il y a quelques années on n'était pas sensibilisé, on a toujours été sensibilisé, mais c'est vrai que maintenant déjà la loi nous suit de plus près, et voilà, et nos techniques s'améliorent, les fabricants de produits, c'est pareil, s'améliorent d'année en année. Mais on est obligé d'utiliser, parce qu'on a des retours importants. Les clubs, voilà, ils ont besoin d'utiliser leur terrain 365 jours par an, ou presque. Il y a la télé, il y a quand même la pression médiatique, parce que quand un terrain est bien, entre guillemets, personne n'en parle, mais quand un terrain est beaucoup moins bien à la télé, on en entend parler, et on est bien placé pour le savoir. Donc voilà, que ce soit par les gens ou par les médias d'ailleurs, mais bon, c'est pas le truc. Mais c'est vrai qu'on essaie, nous on n'est pas contents quand on met un produit phyto. Moi, mes gars, ils sont pas contents de mettre un produit phyto. Voilà, après, des fois, on est obligé, parce qu'aujourd'hui, c'est les seules méthodes sûres qui marchent. Voilà. Après, on a réduit chez Sparfell il y a 4 ans, et entre il y a 4 ans et maintenant, on a réduit à peu près de 50% les produits phyto par les méthodes. Sur les terrains d'entraînement, on fait un phyto par an, et encore, il y en a où on n'en fait pas. Et sur les terrains d'honneur, ouais, c'est 3, 4, 5, 6, ça dépend des années, ça dépend le climat. Voilà. Après, nous, on n'est pas content quand on met un phyto, clairement, mais des fois, on est obligé.
Et si la loi restreint encore votre champ d'application, est-ce qu'il y a des méthodes plus naturelles, des produits naturels qu'on peut utiliser? Alors, peut-être pas avec la même efficience, mais en tout cas, qui permettent quand même de combattre les champignons, ou d'assurer une bonne gestion de qualité de pelouse.
Oui, il y a des choses qui existent. Ça fait 3-4 ans que maintenant, il y a des golfs qui sont, entre guillemets, en zéro phyto. Ça existe. Après, nous, sur les terrains d'honneur, on a ces problèmes d'ombre portée, d'humidité, de stockage d'humidité. C'est différent que les golfs, c'est d'autres problématiques. Donc, on y approche, on travaille tous. Quand je dis on, c'est Sparfell, c'est nos collègues d'autres sociétés. On travaille tous pour... on va y arriver, j'en suis sûr.
Justement, je me permets de vous couper. Est-ce qu'il y a une force collective, même entre concurrents, pour se dire que de toute façon, le plus vite, on aura trouvé des produits qui permettent d'alléger le phyto, et de toute façon, si c'est la loi qui nous y oblige, on devra faire avec, ou est-ce qu'il y a vraiment cette recherche et développement anti-concurrentiel où on se dit bah sinon on le trouve avant tout le monde. Je sais pas, est-ce qu'il y a, on dit souvent les task force pour répondre à des besoins urgents. Est-ce que ça pourrait exister ou est-ce que c'est vraiment chacun fait dans son coin?
Non, ça n'existe pas entre les entreprises parce que nous, on est des exécuteurs, entre guillemets, on met en place, alors après des processus, mais on n'est pas fabricant, on n'a pas une société qui fabrique des produits, on n'est pas créateur de nouveaux produits. Par contre, on en utilise, on en mixe. Voilà, après mes collègues ont fait pareil, on s'échange un petit peu, mais c'est vrai que c'est un petit peu... On va pas se dire entre guillemets tous nos secrets, donc voilà, mais il y a quand même des échanges. Quand il y a un nouveau produit de toute façon qui sort et qui fonctionne, ça fait très vite le tour parce que bah, le distributeur il en fait profiter tout le monde. Donc voilà, après ça, il y a des produits qui fonctionnent et tout le monde les connaît. Voilà. Après les associations c'est un peu plus compliqué. C'est vrai que chacun garde ses secrets.
Je reviens un instant sur cette histoire, cette opposition qui peut devenir une association entre écologie et produits phytosanitaires. Est-ce qu'il y a des choses naturelles, donc vous m'avez répondu oui, qui marchent. Est-ce que vous pouvez détailler, est-ce que c'est des trucs qu'on peut facilement comprendre ou est-ce que c'est beaucoup trop technique pour que nous, on puisse comprendre ce qui peut marcher, qu'est-ce que vous utilisez de manière naturelle pour la gestion des pelouses?
Des champignons, en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, des micro-organismes qu'on incorpore dans le sol pour en fait, qu'il y ait une lutte dans le sol entre les bons champignons, entre guillemets, et les mauvais champignons. Et que ce soit forcément le bon qui gagne. En fait, on incorpore dans le sol par des moyens aériens, au moment de la rénovation, quelques fois dans l'année, des micro-organismes, des champignons, ce qu'on appelle nous des mycorhizes. Voilà. Enfin, il y a plein de systèmes. Il y a 3-4 technologies qui fonctionnent.
Et ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que tout est très réglementé du côté de la LFP. J'ai parlé plusieurs fois tout à l'heure de la charte, la fameuse charte pour pas mal de choses. Je pense à la hauteur de tonte, le timing des arrosages. J'ai découvert tout ça un peu en me documentant. Le dessin de la tonte avec la taille des largeurs de bandes, etc. Nous, on imagine que c'est fait un peu au hasard, mais en fait, pas du tout. Au bon vouloir du jardinier, mais en fait, pas du tout. Ce sont aussi des contraintes pour vous qu'il faut prévoir dans votre gestion des pelouses, notamment quand est-ce qu'on lance l'arrosage, jusqu'à quand on a le droit d'arroser avant le début du match, la hauteur de tonte, bah, de temps, entre temps et temps de millimètres, pas un de plus, pas un de moins, etc. Souvent, on dit... c'est vrai que c'est un truc qui revient souvent. Alors peut-être un peu moins maintenant, mais peut-être que cette charte aide à ça. C'est-à-dire que quand des grands clubs se déplacent sur des pelouses de petits clubs, on avait souvent la plainte des joueurs qui se disaient « Ouais, bah, la pelouse, elle est un peu haute, ils abusent, ils n'ont pas vraiment coupé, etc. Ça ralentit le jeu, etc. » Peut-être que la LFP cherche aussi à uniformiser un petit peu tout ça pour pas créer de différences aussi importantes.
Ah oui, on a tout à fait, on a une charte. Donc la hauteur des pelouses, c'est entre 24 et 27 mm, 1h30 avant le coup d'envoi. Donc c'est vérifié hein, par le délégué. Donc le délégué, c'est le bon garant de la Ligue pour le match. Donc il vient vérifier avec un prisme, en fait, une règle, voilà, avec le jardinier. Donc ça, c'est pris avant le début du match. Et voilà, nous, ouais, effectivement, on a tout un planning qui découle. On part H, c'est l'heure du match, et après on découle un planning pour l'arrosage, pour la tonte, le traçage. Tout est calé. Après, le premier match est généralement un peu stressant, et puis après on prend le. C'est une habitude, entre guillemets, quoi. Voilà. Après, il faut aussi tenir compte de la météo, parce que bah, quand il pleut, on ne peut pas tracer les terrains, ou en tout cas, la peinture de traçage ne tient pas pareil. C'est différentes organisations pour que le match se déroule au mieux et soit prêt 3 heures avant le coup d'envoi, puisque c'est demandé par la Ligue.
Au niveau de l'arrosage, jusqu'à combien de temps ça peut durer, l'arrosage en minutes hein, je parle d'une pelouse. Alors, j'imagine qu'on essaie de faire en sorte qu'elle arrive quand même en bon état avant le week-end. On se dit pas juste le samedi, si le match est à 17h à 15h, mince, la pelouse, on a oublié de l'arroser, voilà. Mais combien de temps ça peut durer l'arrosage de la pelouse avant le match?
L'arrosage, il est géré à la semaine pour la plante. Nous, on le gère vraiment pour que la plante, elle ait ce qu'elle a besoin. Et après, c'est géré à partir de 3-4 heures avant le match. Voilà, là, on a les demandes des coachs où ils nous disent, bah voilà, on veut de l'arrosage ou on veut pas. Hein. Des fois, en fonction des conditions météo, le coach dit, enfin, le staff dit non, il n'y aura pas besoin. Donc voilà, et c'est 3-4 minutes par arroseur. Pour faire simple, c'est un tour ou deux de chaque arroseur.
D'accord. Voilà. D'accord. Donc c'est limite l'effet d'une petite pluie de 5-10 minutes, quoi. 5 minutes, quoi.
Ouais, tout à fait. C'est une espèce de bourrine. Enfin, c'est vraiment pour humidifier. Le but, c'est pas d'arroser le
en profondeur. C'est vraiment
le terrain. c'est vraiment de fuser pour que la balle soit rapide, parce que si on met trop d'eau, bah après vous allez avoir vraiment un terrain gorgé d'eau, donc vous allez voir à la télé par les espèces de, je sais pas comment on dit, mais de traîner sur le ballon là, quand le ballon roule, un peu comme sur derrière la voiture sur la route. Donc voilà, le but c'est vraiment d'humidifier pour que le ballon fuse et reste vraiment sur la couche superficielle du gazon.
Alors, vous le disiez tout à l'heure, et j'avais noté aussi cette arrivée très médiatique de Jonathan Calderwood au Paris Saint-Germain, qui a fait énormément de bien, évidemment, à notre championnat de France, à nos championnats, même si on inclut aussi la Ligue 2. Ça a mis un gros coup de projecteur sur justement la nécessité d'avoir une pelouse de qualité. Ça ne veut pas dire qu'on n'essayait pas de le faire avant à certains endroits, etc. Mais en tout cas, lui, médiatiquement, ça a donné un vrai coup de fouet pour montrer combien cette tâche n'était surtout pas à négliger. De mémoire, l'OGC Nice a aussi recruté un Anglais qui s'occupait, je crois, du Clairefontaine anglais, de mémoire aussi, pour s'occuper. Alors, je crois que dans un premier temps, c'est que du centre d'entraînement, parce que pour le stade, c'est une question avec la ville de Nice, il me semble, quelque chose comme ça. Donc,
c'est contractuel, ouais. Voilà, c'est des questions de propriété, entre guillemets, et de gestion. Donc, effectivement, parce que le centre d'entraînement de Nice est géré par le club, enfin, propriété gérée par le club et l'enceinte, je ne sais pas par qui est la propriétaire, mais en tout cas, qui le gestionne. Mais c'est vrai que c'est la même entreprise, mais c'est pour le club, ça change un petit peu. Ouais.
Et du coup, est-ce que vous aussi, je pense avoir la réponse, puisqu'on en a déjà un petit peu parlé, mais vous voyez aussi, j'imagine, cet intérêt grandissant depuis des années dans les clubs de Ligue 1, Ligue 2, pour avoir une pelouse de qualité, tout simplement, pour les raisons qu'on a dit au tout début de cet entretien, les blessures, la qualité du jeu, la télé aussi, où ça devient aussi un vrai enjeu. Donc, vous aussi, en tant qu'entreprise qui s'occupe de ça, j'imagine que les demandes aussi arrivent en nombre et de manière beaucoup plus fréquente qu'il y a 5, 10 ou 15 ans.
C'est clair, il y a de plus en plus de demandes de clubs professionnels, parce que c'est vrai que l'arrivée de Jonathan Calderwood a fait augmenter les budgets, et pour avoir la même qualité de pelouse que lui, forcément. Tout le monde était un petit peu jaloux, enfin tous les clubs étaient un petit peu jaloux, donc voilà. Et la technicité, forcément, de notre part. Donc on a tous appris, tous augmenté nos budgets, nos connaissances. Et voilà, et c'est vrai que les clubs aujourd'hui veulent tous avoir des terrains hybrides, enfin des terrains de dernière génération en tout cas, et entretenus de la meilleure des façons pour avoir, comme on disait tout à l'heure, les blessures, enfin moins de blessures, enfin vraiment des bons terrains, parce que je pense que c'est aussi un choix pour les sportifs ou pour les staffs quand ils viennent visiter les infrastructures. Donc soit toute la partie cachée que nous voit pas, les salles de musculation, les vestiaires et tout ce qui s'en découle, mais aussi toutes les infrastructures que nous on gère, donc les terrains, les pistes de course, enfin les buts de force et tout ça. Donc voilà, c'est vraiment c'est devenu hyper important, et l'arrivée de Jonathan Calderwood a fait un grand bien à notre métier en France et nous a botté un peu les fesses entre guillemets pour vraiment voilà, parce qu'on était dans notre monde et on était en retard par rapport aux autres pays européens. On est peut-être au niveau, après il y a toujours des clubs qui sont au-dessus du lot, hein, c'est clair, mais je pense que globalement en France, on est en Ligue 1 en tout cas, on est au niveau européen, la moyenne.
Est-ce qu'on peut évoquer, justement, je ne sais pas si vous pouvez répondre de manière très précise ou sur une échelle, ou essayer de nous faire comprendre, en fait, le budget nécessaire pour un club de Ligue 1 ou de Ligue 2 pour l'entretien de sa pelouse. Moi, c'est une question que je me pose, parce qu'on sait que c'est un vrai budget. Alors, il y a plein de choses qui rentrent, parce qu'il y a du personnel, évidemment. Il faut aussi les semences de qualité, les outils pour l'entretien, ce qui est tondeuse, la luminothérapie, l'arrosage, l'aération. On parlait de tous ces appareils-là. Éventuellement, pour les terrains, on parlait de chauffage au sol tout à l'heure. Il y en a qui ne l'ont pas, mais ça peut être des bâches spécifiques pour éviter, quand il y a des chutes de neige ou du gel, pour éviter que la pelouse souffre de trop. Est-ce qu'on peut essayer d'avoir une idée de ce que ça représente pour un budget d'un club de Ligue 1, Ligue 2? Parce que je pense que, de manière générale, je pense qu'on n'imagine pas le coût que ça peut avoir, en fait.
Ouais, alors donner un chiffre, c'est compliqué, parce que voilà, on n'a pas trop envie de communiquer les chiffres. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est sur les terrains d'honneur, c'est entre 1 à 3 personnes en moyenne en France, à plein temps. Donc déjà, ça donne aux gens, ça leur permet de voir. Les machines qu'on utilise, c'est des machines forcément qui ont une certaine valeur. Voilà, les petites tondeuses, notamment qu'a le Paris Saint-Germain et qu'on a tous, tondeuses pour tondre le terrain, ça vaut entre 8 et 10 000 euros la tondeuse en prix public. Après, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre que, ben, les engrais, forcément, c'est des budgets. Les engrais, les produits phyto, c'est des budgets importants. Voilà, mais là, je ne pourrais pas donner, malheureusement, de chiffres. Tout ce qui est généralement eau et chauffage, ce sont les clubs qui payent les factures en direct. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas forcément les retours. Et puis, en fonction de où on est situé, on n'a pas les mêmes consommations. La luminothérapie, c'est pareil, généralement, c'est les clubs maintenant de plus en plus qui payent les lampes et l'entretien, enfin tous les appareillages et les entretiens et les consommations, parce que ça coûte un petit peu d'argent en consommation électrique. Alors après, je suis désolé, mais je ne peux pas répondre de manière précise.
Non, mais déjà, ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'il y a déjà le personnel. Donc si juste pour un terrain d'honneur, c'est entre une et trois personnes à temps plein, on peut imaginer déjà un coût important. Les machines, il y en a quand même beaucoup aussi, parce qu'il n'y a pas que les petites tondeuses à main, il y a tout pour l'aération, on a parlé de la luminothérapie.
Il
y
a les tracteurs, il y a les cuves de traitement, donc que ce soit pour traiter ou pour mettre l'engrais liquide, les épandeurs d'engrais solides, tout ce qu'est le matériel pour défeutrer, donc enlever les matières qui se déposent sur le terrain.
Plus ensuite, il y a les produits, l'engrais pour semer la pelouse aussi. Donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Au final, le coût, et puis après, de l'eau pour l'arrosage, de l'électricité pour le chauffage et pour la luminothérapie. Donc c'est vrai que c'est des budgets qui sont vite très importants. Et ça, c'est juste pour le terrain d'honneur. Si on réplique ça ensuite sur les terrains d'entraînement, etc., on arrive évidemment sur des coûts. Donc c'est vrai que parfois on dit tout le temps, mais pourquoi tel club, ils font pas des efforts, etc. Il faut aussi voir que c'est un budget qui est très conséquent et que notamment en ce moment, alors il y a déjà des progrès qui ont été faits, mais en ce moment, entre la crise du Covid avec des stades qui ont été fermés pendant longtemps, entre l'échec de Mediapro qui a coûté beaucoup d'argent, etc., etc., on a des clubs qui avaient prévu des choses aussi qui peuvent pas les mettre en place pour le moment parce que ça demande des ressources économiques qu'ils n'ont pas aujourd'hui. Et effectivement, refaire tous ces terrains d'entraînement, refaire son terrain d'honneur, acheter du matériel, etc., ça a un vrai coût aussi pour les clubs. Donc on attend de voir une fois que le football va reprendre un petit peu son train-train quotidien, notamment économique, avec des droits télé peut-être un peu plus conséquents, avec le retour des personnes au stade qui vont regarnir aussi un petit peu les comptes des clubs. Ce qu'on peut dire, c'est que même si on n'a pas de chiffres, c'est un coût conséquent, en tout cas.
Ah oui, ça représente... on est généralement le plus gros ou le deuxième plus gros budget pour les clubs, parce qu'on a aussi le ménage qui coûte extrêmement cher pour tout nettoyer les stades, enfin le stade et le centre d'entraînement. Et la maintenance aussi des locaux quand c'est fait par des entreprises extérieures. Voilà, on est clairement sur les pelouses, sur des très très gros budgets. Mais voilà, j'ai envie de dire, c'est aussi le bureau ouais, du staff, le bureau des joueurs, le moyen de communication le plus fiable du club. Hein. Quand il y a un beau terrain, la communication est toujours plus facile que quand le terrain est un peu plus compliqué. Donc voilà, mais c'est vrai que ça reste des moyens colossaux qui sont mis en œuvre pour faire du foot.
On va parler du championnat des pelouses. Donc si on regarde un peu les clubs, où, alors là je me suis arrêté à début novembre du coup, la dernière actualisation donnée pour la Ligue. Donc Caen est premier en Ligue 2, Guingamp est troisième, Le Havre 9e, Ajaccio 11e et j'ai Brest 4e en Ligue 1. Est-ce que ça c'est votre récompense médiatique entre guillemets? Même si au final, il y a assez peu de gens qui sont au courant que forcément que Caen est géré par Sparfel, que bref, il faut soit plutôt des initiés vraiment qui remarquent ce genre de choses-là, ou est-ce que finalement vous y prêtez pas trop attention parce qu'il y a tellement de critères et puis il faut rappeler peut-être aussi qui détermine ce classement, comment les points sont attribués.
Oui, alors pour le classement des pelouses, pour la Ligue 1, donc c'est chaque équipe met une note, donc un représentant de l'équipe. L'arbitre met une note et le diffuseur met une note. Généralement, c'est le producteur qui met la note. Donc, on fait la moyenne des quatre notes et on obtient la note finale que vous voyez sur le classement des pelouses. Après, pour la Ligue 2, l'arbitre est le représentant de chaque club, mais il n'y a pas le diffuseur. Donc, c'est pour ça que généralement, les notes sont un peu plus élevées en Ligue 2 qu'en Ligue 1, parce que les diffuseurs, ils ont tendance à mettre des notes un peu plus sévères, entre guillemets, que les clubs. Voilà, et après c'est pareil, on ne peut pas avoir plus de 3 points au-dessus de l'arbitre ou moins de 3 points en dessous de l'arbitre. C'est-à-dire que si l'arbitre met 15, on ne peut pas mettre 19. Enfin, la note de 19 ne sera pas prise en compte.
D'accord.
Ou la note de 10, par exemple, ne sera pas prise en compte non plus. C'est l'arbitre qui fait un peu le tampon là-dessus, donc c'est plus 3, moins 3.
Avant-dernière question, si on se projette un petit peu, quels sont les défis de demain pour Sparfel et pour toutes les entreprises de ce secteur-là en matière de gestion des pelouses des clubs professionnels? Je pense principalement notamment au dérèglement climatique qui a des conséquences importantes. Je pense aussi à l'épuisement des ressources naturelles, qui est une donnée aussi à prendre en compte. Et quels sont les axes de progression? Alors, on a parlé notamment d'essayer d'amener une touche de naturel plus importante dans les produits ou dans les traitements. Mais il y a aussi, peut-être, vous allez me le dire, une partie technologique qui pourrait être une aide supplémentaire pour pousser peut-être encore le curseur un peu plus loin sur votre travail au quotidien. Qu'est-ce qui vous attend clairement dans les années à venir?
Les années à venir, c'est le zéro phyto, nous, qui est vraiment important, c'est de s'organiser à ça pour travailler sans produits phyto, alors que c'est évidemment pour la loi en premier, mais aussi pour la planète, hein. C'est le but de tout le monde, d'essayer de travailler en limitant les intrants l'eau, parce que l'eau devient une denrée rare et que voilà, il faut qu'on en mette quand même moins sur nos terrains, parce qu'on en met énormément. Donc on travaille avec différentes semences, on a des points d'amélioration qui existent et on continue de travailler dessus. Et puis toute notre technicité, les moyens de suivi de nos terrains, on parlait pour l'eau, on travaille maintenant avec des logiciels qui nous disent l'ensoleillement de telle ou telle partie du terrain, donc potentiellement les besoins en eau. Donc on n'arrose pas pareil les produits des zones au soleil, les zones à l'ombre, donc ça c'est améliorer encore ces choses-là. Voilà, améliorer les semences pour qu'elles soient moins de maladies. Voilà, c'est améliorer tout ce qu'on met sur nos terrains pour en mettre entre guillemets moins ou en tout cas mieux et de manière un peu plus raisonnée et un peu plus voilà, c'est pas qu'on en met trop aujourd'hui, mais parce qu'on fait avec un mode qu'on connaît, mais c'est trouver notre nouveau mode. On le cherche tous, on va le trouver, j'en suis convaincu. Voilà, vraiment faire qu'on mette moins d'eau, moins d'engrais ou des engrais plus naturels. En tout cas, on essaie tous de mettre des engrais aussi dits naturels. Donc voilà, on essaie tous de tendre vers ça, parce qu'on est tous, on sait que demain, c'est important de mettre moins d'eau, moins d'engrais, tout ça pour la planète, quoi, tout simplement.
Du coup, est-ce que la vraie recherche et développement qui doit concentrer l'attention d'un maximum de personnes, c'est sur la matière première? Vous parliez de la qualité d'avoir des semences qui nécessitent moins d'eau, qui sont plus résistantes aux champignons. Finalement, l'impression que ça me donne, en tout cas de l'extérieur, après ce que vous venez de dire, c'est qu'il y a beaucoup d'efforts qui doivent être concentrés là-dessus, parce que c'est ça qui va déterminer aussi le fait d'utiliser moins d'eau, d'utiliser moins de produits, etc.
Ouais, c'est clair, les semenciers, hein, les gens qui font les semences de gazon, travaillent là-dessus. Après, c'est aussi aux entreprises comme nous. Nous, on a une personne qui fait du R&D chez nous, chez Sparfel, donc qui cherche les nouveaux produits, et après on travaille ensemble avec la technique pour les mettre en œuvre et les tester. Donc voilà, on cherche vraiment à s'améliorer à tous étages, que ce soit les produits, enfin les fabricants, les producteurs, les distributeurs, ceux qui mettent en œuvre comme notre société. Donc voilà, on essaie chacun de faire au mieux. On a encore beaucoup de progrès à faire, mais voilà, après on y arrive, et dans les golfs, ils y arrivent, en Belgique, ils y arrivent. Donc, il n'y a pas de raison que nous, sur nos terrains en France, on n'y arrive pas.
Vous avez cité plusieurs fois la Belgique. C'est quoi? Ça devient une référence à ce niveau-là?
Parce qu'en fait, ils n'ont plus de produits phyto depuis quelques années. Maintenant, je n'ai pas la date en tête. Et puis, c'est tombé vraiment du jour au lendemain. Je crois qu'ils ont eu 2-3 mois pour se retourner. Donc, autant dire d'aujourd'hui pour demain. Donc voilà, nous on a encore 2 ans et demi pour faire les actions qui vont bien. Donc voilà, parce que eux ils n'ont pas eu le choix en fait, donc ils l'ont fait et ils sont suivis, hein, parce qu'il y a des organismes qui suivent pour bien que tout soit respecté à la lettre. Donc voilà, après c'est pareil, hein, l'État suit tous les produits qu'on met parce qu'on est obligé de tout déclarer et tout. Donc voilà, c'est quand même vachement suivi. Donc il faut qu'on s'améliore. Et nous, on voit dans notre suivi qu'on en met de moins en moins. Donc on tend vers le moins, maintenant il faut tendre vers zéro.
Petite question comme ça qui me vient à l'instant. Quand une pelouse est vraiment abîmée, est-ce qu'on peut vraiment la récupérer? Ou est-ce qu'il y a un moment où on se dit « Ah, ça rien, on va scalper le tout et on recommence à zéro ».
Non, il faut qu'on ait des compétiteurs, hein, nous aussi. Hein, on joue pas notre vie tous les week-ends comme les joueurs de foot, mais on est des compétiteurs, on a envie d'avoir la meilleure pelouse. Et quand on n'y arrive pas, parce que ça nous arrive malheureusement, non, on fait en sorte que ça fonctionne. Il y a toujours un moyen pour que ça s'améliore. On parlait des lampes d'immunothérapie, on parlait de l'arrosage, on parlait des engrais, on parlait des produits phyto. Il y a plein de techniques qui font que si un terrain est mal en point, on arrive à le redresser. On parlait du pericularia tout à l'heure. Le champignon, on l'a eu, nous, sur des terrains cette année, et on a quasi tendu vers 10-15% de gazon, donc ce qui est vraiment pas beaucoup. Et en deux mois, on a réussi à retrouver un couvert végétal de 80-90%, donc on est plutôt très content, et tout en ayant des matchs. Non, on est des compétiteurs, il faut que ça fonctionne. On n'est pas défaitiste, on veut que ça marche, et voilà, on se prouve à nous-mêmes aussi qu'on est capable.
Donc on met pas la pelouse à la poubelle tout de suite.
Non. Non, déjà on peut pas parce que y a les saisons à faire. Hein,
bien donc, sûr.
C'est pas les sociétés qui entretiennent les pelouses qui font les dates. Hein. C'est à nous de nous adapter. Et puis ouais, on est tous des compétiteurs, donc c'est vrai qu'on compare nos pelouses et on regarde la pelouse du voisin et voilà. Après, mais on a envie que notre pelouse soit la meilleure et surtout. Quand on n'y arrive pas, on a envie de savoir pourquoi. Et même chez nous, hein, quand on a une pelouse qui est un petit peu en difficulté, bah, nos gars, ils s'appellent. Ah, pourquoi ? Essayent ci, essayent ça. Enfin, voilà, il y a vraiment une communication et tout le monde se met pour aller vers le haut. Quoi.
On arrive au bout de l'entretien, Sébastien. Et la dernière question est toujours la même pour tous mes invités. Qui aimeriez-vous entendre dans ce podcast dans les prochaines semaines ? Alors, soit vous avez un nom particulier à me soumettre, ou plus simplement un métier lié au football que vous aimeriez que les auditeurs puissent soit découvrir si j'en ai pas encore parlé, soit approfondir si j'en ai parlé, mais où on peut encore développer plusieurs thèmes.
Alors moi j'aime bien un peu les métiers de l'ombre parce que nous on a pas un métier de l'ombre et les intendants dans les clubs de foot, voilà, je trouve qu'ils ont quand même un rôle un petit peu ingrat entre guillemets parce que c'est des personnes qu'on voit jamais et s'ils sont pas là, ben il n'y a pas de club. Et nous, on communique vachement avec ces personnes-là. Donc, je trouve que c'est vraiment des rôles hyper importants dans les rouages du club. Parce que c'est eux qui soignent les petits bobos. Enfin, qui, en tout cas, améliorent, je pense, le moral. Y compris, nous, des jeunes, on voit souvent sur les centres de formation des intendants qui prennent le temps de discuter. Ou voilà, parce que c'est généralement des gens, entre guillemets, d'un certain âge, sans leur manquer de respect. Moi, c'est des gens que j'aime bien, parce que c'est des gens avec qui ils sont hyper abordables et qu'on discute... Et je trouve qu'ils sont hyper importants dans les clubs.
Et ben ça me fera une nouvelle invitation, plusieurs invitations à lancer à nos chers intendants de Ligue 1 et Ligue 2 notamment. Merci Sébastien Cotta pour votre disponibilité et je vous souhaite de continuer à nous offrir de belles pelouses, à la fois pour la télé, mais surtout, plus que nous qui sommes devant la télé, surtout pour les acteurs, les joueurs et les entraîneurs. Merci beaucoup.
Merci de l'invitation.
Et voilà, c'est terminé. Merci d'avoir écouté cette conversation. Le podcast Prolongation est disponible sur l'ensemble des plateformes audio comme Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et Deezer. N'hésitez pas à mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast si vous avez apprécié le contenu de cette interview. C'est une étape très utile pour faire découvrir ce podcast au grand public. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux et tous les liens sont dans la description de cet épisode. Je vous dis à très vite pour une nouvelle conversation autour du foot.